Alléluia. C'est une joie d'être avec vous ce matin. Chacun a son style. Je ne suis pas habitué à être enfermé comme ça, donc il va falloir que je m'adapte. Alléluia. Mais nous sommes dans la joie d'être avec vous ce matin. Ma joie, c'est de voir la continuité. La continuité. De voir Marc et Lee, nous sommes de la même génération. Et de voir tous les fils du pasteur Morissette et de voir que le flambeau peut se transmettre. Et ça, c'est une... Le succès d'un ministère se mesure par la capacité de transmettre le flambeau. Et quand je vois ce travail qui a été fait et que vous voyez que le fils excelle autant que son père, ça mérite une main d'acclamation. Et le fils doit exercer le ministère, pas avec un sentiment de culpabilité que je n'ai pas commencé à zéro. Le fils doit exercer le ministère en étant non coupable. Et il est important d'avoir développé la mentalité du royaume de Dieu, de ne pas dire que c'est une église de famille, mais de comprendre que Dieu confie des ministères à certaines familles. Et nous devons accepter, parce que c'est le principe qui est dans la parole de Dieu, du livre de Genèse au livre d'Apocalypse. Dieu confie des ministères. Tous les gens qui faisaient partie du ministère de Jésus-Christ venaient de sa région. Dieu confiera le ministère sacerdotal aux Lévites, qui sont des gens de la tribu quasiment de Moïse. Alors nous devons être armés de la mentalité du royaume de Dieu, afin que ce que Dieu fait parmi nous puisse continuer. Amen. J'aimerais t'annoncer peut-être le titre de mon message de ce matin. Le titre de mon message est tiré de votre thème, « Je suis non coupable ». Est-ce que tu peux le dire à quelqu'un, « Je suis non coupable » ? Dis à quelqu'un, « Je suis non coupable ». Dis à quelqu'un, « Je suis non coupable ». Est-ce que tu peux dire au diable, « Je suis non coupable » ? Dis au diable, « Je suis non coupable ». Dis-lui, tu as des preuves contre moi, mais le sang de Jésus-Christ, Christ est mon avocat, Christ est mon avocat, à cause du sang de Christ, le sang qui m'a justifié, le sang qui m'a sanctifié, le sang qui m'a purifié, à cause du sang de Christ. Je suis non coupable. Alléluia. Acclamons le Seigneur ce matin. Gloire au Seigneur Jésus. Je suis non coupable. Ouvrons la parole de Dieu ensemble ce matin. Si vous avez votre Bible avec vous, dans le livre de la Genèse, chapitre 37, du verset 19 au verset 35. Alléluia. Genèse, chapitre 37, 19 à 35. Normalement, bon, c'est à l'écran ici, et je vais vous inviter, si c'est possible ce matin, que nous puissions nous lever tous d'un même cœur, prendre nos Bibles en main, et nous allons lire la parole de Dieu, la parole de Dieu qui guérit, la parole de Dieu qui restaure, la parole de Dieu qui transforme, la parole de Dieu qui libère, la parole de Dieu qui donne la victoire. La parole de Dieu qui fait fuir les démons, la parole de Dieu qui fait fuir les sorciers, la parole de Dieu qui brise les malédictions, car la Bible déclare que Dieu s'élève et ses ennemis se dispersent. À la lecture de la parole de Dieu, il y a des miracles qui vont s'opérer ce matin. Alléluia. Genèse 37, verset 19 au verset 35, et nous lisons en chœur, 1, 2, 3, lisons. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Voici le faiseur de songes qui arrive. » Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une citerne. Thank you. Verset 26. Ruben revint à la citerne, et voici, Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et il dit, « L'enfant n'y est plus, et moi, où j'irai-je » Ils prirent alors la tunique de Joseph, et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs, en lui faisant dire, « Voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si ce n'est pas la tunique de ton fils ou non. » Jacob la reconnut et dit, « C'est la tunique de mon fils. » Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. Nous nous arrêtons là. Notre Dieu, nous sommes devant toi. C'est avec toi que l'éternité rencontre le temporel et le transforme. Nous sommes limités, Seigneur, par notre capacité humaine, par nos vocabulaires. Mais la Bible dit que Jésus, ayant vu la foule, eut compassion d'eux. Et la Bible dit que plusieurs furent guéris. Seigneur, alors que ta parole est livrée ce matin, laisse que ton esprit soit en activité. Dieu, je compte sur toi. Tu es plus réel pour moi que les hommes qui sont ici devant moi. Seigneur, que ta victoire se déclenche et nous couvrons ce moment du sang précieux de Christ. Nous déclarons que toute arme forgée contre nous est sans effet. Toute langue qui s'élève en condamnation, Seigneur, nous la renversons dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous demandons que, au-delà de ce qui a été préparé par l'homme que je suis, qu'il y ait une capacité surnaturelle, une révélation, le réma de Dieu, qui mette de l'ordre dans le tohu-bohu de la vie des gens ici présents, qu'il y ait de l'ordre du Saint-Esprit. Oh, manifeste ta grâce, Seigneur, nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Voulez-vous vous asseoir rapidement et dire à quelqu'un, je suis non coupable. Dites à quelqu'un, je suis non coupable. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est une joie d'être avec vous encore ce matin. Et nous voulons vraiment célébrer ce que Dieu fait en ces lieux. Et l'histoire que nous lisons ici se passe dans une famille. Et combien ici viennent d'une famille? Et ce qui est intéressant, c'est que cette famille dont nous parlons, c'est une famille qui connaît Dieu, c'est une famille qui a des promesses de Dieu. C'est une famille qui connaît qu'est-ce que c'est qu'invoquer Dieu. C'est une famille qui a expérimenté la main de Dieu. En fait, en réalité, ce n'est pas une famille qui a connu Dieu dans la première génération, mais c'est une famille qui connaît Dieu depuis au moins 2 générations, 3 générations même, je dirais, parce que Abraham avait connu Dieu. Et Dieu a dit à Abraham, sors de ton pays, de ta patrie, va vers la terre que je te montrerai. Et Abraham est sorti de là. Et ce qui est merveilleux, et ça rejoint ce que je disais ce matin, c'est que la foi d'Abraham, les promesses d'Abraham ont été transférées à son fils. Et c'est important dans cette génération que nous ne puissions pas perdre la dimension et la responsabilité que nous avons de transmettre notre foi à la génération qui vient. Il ne faut pas qu'après notre mort, ça soit la mort de la foi dans la maison. Et Abraham va transmettre la foi à Isaac, et Isaac va transmettre la foi à Jacob, et Jacob plus tard va transmettre la foi à ses enfants qui vont devenir les 12 tribus d'Israël. Nous avons une responsabilité. Et quand je vois ce que le pasteur Georges Maurice a fait, je suis fier de dire que cet homme est véritablement un homme de Dieu parce qu'il a réussi non seulement à transmettre la foi, mais aussi à transmettre la flamme du ministère. Quelqu'un dit amen. J'ai l'habitude de dire que ça prend beaucoup de conviction de la part de Dieu pour qu'un enfant de pasteur devienne pasteur. Parce que comme moi, vous connaissez les réalités du ministère, c'est que l'église, il y a le côté court où tout le monde dit amen, il y a le côté moins beau où c'est un peu moins difficile, où on remarque que les gens ne sont pas toujours nécessairement convertis, mais ils sont en train de se convertir. Amen. Alléluia. Et nous avons cette responsabilité à nous de transmettre cette foi-là à la prochaine génération. Lorsque je vois les jeunes ici devant, la plupart d'entre vous, je vous connais sur Facebook. Alors, mais je vous connais parce que je vous ai vu petit, la première fois que je suis venu ici à l'église de Dieu d'Outremont, et je suis content de voir qu'il y a une génération qui se lève. Et cette génération doit s'exprimer dans sa particularité et dans sa diversité. Et c'est dans l'expression de sa particularité et sa diversité que Dieu manifeste sa puissance. Mais j'aimerais revenir avec vous pendant un moment sur la famille de Jacob pour vous parler de cette famille. Vous venez certainement d'une famille. La famille de Jacob est une famille qui connaît Dieu. Quelqu'un dit amen. Mais c'est une famille malade. Ce n'est pas une famille dans laquelle quelqu'un d'entre nous voudrait marier sa fille. C'est une famille, laissez-moi vous parler de cette famille pendant un moment, c'est la famille dans laquelle le père a été avoir une relation intime avec une de ses belles filles. Est-ce que je ne sais pas si vous aimeriez marier votre enfant dans une famille comme ça? C'est la famille dans laquelle les frères sont tellement méchants entre eux. Vous savez, quand on vient à l'église, tout le monde est beau, tout le monde est endimanché, comme on dit. Mais entre nous, parfois, nous sommes pires qu'en enfer. Entre nous, on est et parfois, comme on dit en créole, diabla. On saillit, on se déteste entre nous. J'aimerais vous parler pendant un moment de cette famille qui monte à la maison de Dieu, mais entre eux. J'aimerais vous parler de cette famille-là qui a les promesses de Dieu, qui a tout le potentiel, mais une famille divisée, une famille malade. Le fait qu'on monte à l'église, qu'on chante des cantiques, ça ne veut pas dire que tout va bien. Une famille dans laquelle, déjà la génération précédente, le père et la mère étaient divisés quant au choix même des enfants. Qui a fait qu'un enfant a fait un coup à un autre? Une famille divisée, vous savez? Quand dans votre famille vous êtes divisé, sans que vous ne le sachiez, vous allez transmettre ce virus-là aux enfants. Même si vous vous dites qu'on se dispute à 3 heures du matin, les enfants ne vous voient pas. En réalité, les choses ne se transmettent pas physiquement, mais les choses se transmettent spirituellement. Une famille malade, une famille divisée. Ils sont tellement divisés qu'ils peuvent vendre leurs frères et s'asseoir et manger. Vous êtes assis ce matin ici, je suis venu te parler de la part de Dieu. Vous êtes assis ici ce matin, mais votre famille est en train de tomber, votre famille est brisée. Et vous êtes assis là, en apparence, tout va bien. Jusqu'à ce que les portes de la maison se ferment et le papa devient tonton Macoute. Une famille. En anglais, on dit, it's a nasty family. Une famille, ils sont tellement méchants entre eux, mais envers les gens de l'extérieur. Bon Dieu bénis-vous, que Dieu te bénisse. Envers les gens de l'extérieur, ils sont tellement gentils, mais entre eux, c'est des lions qui se dévorent mutuellement. C'est la contradiction même du choix de Dieu. Dieu qui va choisir une famille de molesteurs, une famille de violeurs, une famille de margoulins, et prendre cette famille pour bâtir une nation. Et c'est là même que l'histoire de la non-culpabilité commence. Quand Dieu peut prendre la matière première que les hommes ne veulent pas et bâtir une nation. J'aimerais te dire ce matin, peut-être que tu sors d'une famille comme celle de Jacob, où tout porte à croire que ta vie ne sera que douleur et échec. J'aimerais te dire que de la matière première de laquelle tu fais partie, qui semble être ruinée, Dieu peut bâtir le prochain premier ministre du Québec. Dieu peut bâtir un champion avec toi. Dieu peut bâtir un homme grand avec toi. Une famille divisée. Je suis très méfiant lorsque je vois des gens arriver. Tout est beau, mais qui es-tu en réalité? On te connaît comme le frère qui chante à l'église, comme la sœur qui est toujours zélée. Mais qui es-tu en réalité? Qui es-tu lorsque les portes sont fermées? Voyez-vous, Joseph, pendant qu'il partait rencontrer ses frères, il va croiser des gens en route et il demande « Où sont mes frères ?» Et ces hommes, pensant que c'est une famille unie, en apparence, ces hommes pensant que c'est une famille où ils s'entendent, ces hommes vont dire « Non, tes frères sont à tel endroit, mais ils ne savaient pas que cette famille était divisée. » Et souvent, on est tellement préoccupé à bien paraître dehors. On est tellement préoccupé à sauver les apparences. Pendant que ça fait des mois et des années que toi et ton épouse, vous ne vous parlez pas. Ça fait des années que toi et tes enfants, vous ne vous parlez pas. Et la famille est en train de tomber. Parler de non-culpabilité nous invite à commencer d'abord par regarder dans nos propres familles. Dans un film du... Je pense que c'était... Ça devait être Colombo, je pense. Et un monsieur était sorti de prison, mais il avait commis un crime. Et une des façons dont on l'avait attrapé, c'est qu'on s'était rendu compte que lorsque le monsieur sortait, arrivait devant une porte, il n'ouvrait pas la porte, il s'arrêtait. Et c'est comme ça que les détectives l'ont attrapé. Vous savez pourquoi? Parce qu'en prison, lorsque tu arrives devant une porte, tu n'ouvres pas la porte. C'est que quelqu'un doit appuyer pour que la porte s'ouvre. Dieu peut vous avoir libéré. Dieu peut vous avoir libéré de la culpabilité. Mais vous vivez encore sous la culpabilité alors que l'œuvre a déjà été accomplie. Est-ce que vous me saisissez ce matin? Jacob vient d'une famille divisée, une famille brisée, une famille qui en apparence tout va bien. Je me demande ce matin comment sont vos relations avec vos enfants. Je me demande comment sont les relations des adultes de cette église avec les jeunes. Je me demande comment sont vos relations ce matin alors qu'on parle de non-culpabilité, alors qu'on dit que nous sommes non-coupables. J'aimerais te dire ce matin de la part de Dieu que tu es non-coupable. Au milieu de cette famille, Dieu va prendre un enfant. Et Dieu va prendre un enfant, cet enfant s'appelle Joseph. Quelqu'un dit « Je peux être Joseph ». Quelqu'un dit « Je peux être Joseph ». Dieu va prendre un enfant qui s'appelle Joseph. J'aimerais vous parler du Joseph et du Joseph. J'aimerais vous parler du Joseph et du Joseph parce que Joseph se retrouve au milieu d'une famille dans laquelle il se retrouve l'avant-dernier. Et nous venons, nous, les Haïtiens et les Africains, des familles dans lesquelles on a la particularité d'être nombreux. Et la difficulté que nous avons quand nous sommes nombreux, c'est que les aînés, en général, étouffent les plus jeunes. Mais souvent... L'élévation ne vient pas dans la vie à cause de l'âge, mais elle vient à cause de la particularité que Dieu a mis dans nos vies. Et souvent, les plus jeunes vont grandir dans des familles étouffées, écrasées. Et Joseph est cet enfant-là qui va grandir avec des rêves, qui va grandir avec des ambitions. J'aimerais vous dire, jeunes, au-delà de l'église, vous devez être productif dans la société. J'aimerais vous dire, jeunes, au-delà de chanter à l'église, vous devez réussir, vous devez percer dans la société québécoise. J'aimerais vous dire, jeunes, que vous devez réussir dans cette société et faire un exemple et montrer que l'immigration n'est pas la régression. L'immigration n'est pas être citoyen de second rang. Démontrer que l'immigration n'est pas simplement attendre qu'on nous donne le bien-être social, mais démontrer qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous faisons des exploits dans l'église et nous faisons des exploits dans la société. Amen. Et Joseph est ce jeune homme-là avec beaucoup de potentiel, mais dans une atmosphère hostile. Et le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils ont beaucoup de potentiel, mais l'atmosphère est hostile à l'explosion de leur potentiel. Joseph se retrouve au milieu de ses frères. Les premiers ennemis de sa vision, ce sont ses frères. Le premier endroit où on tue la vision d'un jeune, soit c'est dans sa famille ou dans son église. Avant même que le diable n'arrive, avant même que le diable n'arrive, le travail aura été fait soit dans la famille ou dans l'église. Joseph se retrouve pris en otage au milieu de ses frères. Des frères qui vont travailler à le casser, à le briser, à lui dire tu n'es pas capable. Bien-aimé, tu es assis là ce matin, peut-être on te dit que tu n'es pas capable parce que tu es une femme, mais j'aimerais te dire que tu es capable. Peut-être que tu es assis là, on te dit que tu n'es pas capable, aucun noir au Québec n'a atteint le niveau que tu veux atteindre. Je veux te dire que tu es capable. S'il n'y a pas eu de premier, tu peux être le premier. S'il n'y a pas eu de premier, tu peux être le premier. J'aimerais te dire que tu es capable. Joseph se retrouve avec beaucoup de rêves, beaucoup de potentiel, mais dans une atmosphère hostile. J'aimerais te dire que tu peux émerger, même si l'atmosphère est hostile. Tu peux émerger. Dis à quelqu'un, tu peux émerger. Dis à quelqu'un, tu peux émerger. Dis à quelqu'un, tu peux émerger. Et Joseph se retrouve là-dedans. Et j'aimerais te dire que l'atmosphère où tu te retrouves, soit te brise ou te propulse. Joseph se retrouve avec des frères, avec une atmosphère qui va faire que sa vie va prendre un tournant définitif. Joseph se retrouve là et ses frères le regardent. Ses frères voient qu'il a des rêves. Ses frères voient qu'il a du potentiel. Et quand ses frères voient l'ombre qu'il va leur faire, il décide de le vendre. Il décide de l'isoler. Vous savez, c'est une des bonnes façons de punir quelqu'un, c'est de l'isoler. Vous savez, vous faites un party de famille, puis vous ne l'invitez pas. Ah, on avait oublié. Non, on n'a pas oublié. On t'a isolé. Et c'est comme ça qu'on brise le talent des gens. Vous savez, une façon dont on brise le talent des gens, c'est qu'on les isole. Parce que l'isolation est une forme de prison invisible. Et j'aimerais vous parler de la part de Dieu un moment. L'isolation, c'est trouver ce jeune homme qui a très bien chanté en passant, et puis il termine, personne ne dit rien. Ou bien, c'était bon pour un jeune. Non, dites que c'était bon. Si vous voulez le complimenter, complimentez-lui entièrement. L'isolation, c'est ignorer même ce que la personne a fait de bon. On verra bien ce qui va devenir. C'est bien. On lui donne encore 10 ans, on va voir. Pourquoi tu n'espères pas le meilleur de l'autre? Pourquoi tu n'espères pas qu'il va percer? Pourquoi tu n'espères pas qu'il devienne un grand serviteur de Dieu? Pourquoi tu n'espères pas? Voyez-vous, l'environnement dans lequel vous vivez vous contamine. Et si vous avez du potentiel et que vous n'apprenez pas à vous protéger contre l'hostilité de l'environnement, vous aurez beaucoup de rêves, mais vous n'allez jamais les réaliser. Joseph grandit dans un environnement qui cultive en lui la culpabilité. La culpabilité d'être différent. La culpabilité d'oser rêver. La culpabilité d'oser exceller. La culpabilité de dire que je ne serai pas enceinte avant 18 ans. Je ne serai pas enceinte avant d'être mariée. Je veux me garder. Je veux me préserver. Et tu subis la pression de tes pères pour te dire que non, il faut absolument que tu cèdes à quelqu'un. La culpabilité parce que tu es différent. Joseph se retrouve au milieu d'un environnement hostile. Il faut que tu fasses comme le cerf-volant. Dans un environnement hostile, quand les vents sont contraires, le cerf-volant décolle. Le problème, ce n'est pas l'environnement où tu es, c'est comment tu réagis à l'environnement. Dis à quelqu'un, le problème, ce n'est pas l'environnement. C'est comment tu réagis. C'est comment tu réagis. C'est comment tu réagis. Un homme qui a une vision devient ami de l'adversité. Parce que l'adversité devient une opportunité de prouver que je suis dans le bon chemin. Parce que l'adversité devient une opportunité de prouver que je suis sur le bon chemin, de prouver, de raffiner mon potentiel, de raffiner ce que Dieu a mis en moi. La plupart des gens, lorsqu'ils voient que vous avez du potentiel, ils vont cultiver en vous la culpabilité. Jeune homme, lève-toi un moment, lève-toi un moment, lève-toi un moment, viens ici, viens ici, viens ici. Alors, ils vont te voir habillé, ils vont dire, oui, il a bien chanté, mais sa cravate n'était pas bien attachée. Frère, c'est tout ce que tu as vu. Et toi, tu te sens coupable et tu te décides de te retirer de l'église. Ils vont dire, comme ils m'ont dit un jour, ah, mais il est impoli parce qu'il a dit, asseyez-vous. Il aurait dû dire, asseyons-nous. Mes frères, moi j'étais debout, vous deviez vous asseoir. Et on cultive, merci, on cultive cette culpabilité. Et la culpabilité qu'on cultive en toi tue le potentiel de Dieu en toi. Sur ce que Dieu peut faire. Voilà pourquoi avec le temps, quand on ne sait pas apprécier nos jeunes, mais qu'on les culpabilise tout le temps pour ce qu'ils ont fait de mal, ils finissent par quitter l'église et se retrouvent dans le monde. L'environnement était hostile. Et Dieu va prendre Joseph de là et Dieu va l'emmener en Égypte pour le protéger contre ses frères. Pour le protéger contre ceux qui voulaient le détruire. Mais j'aimerais peut-être arriver ce matin au cœur de ce que je voulais vous dire. Est-ce que vous me permettez ce matin? Et Joseph est vendu en Égypte et finalement, on va prendre le vêtement, on va le tremper dans le sang et on va l'emmener à son père. Et puis on lui présente le vêtement. Et on lui dit... Reconnais-toi-même. Est-ce qu'on peut dire ensemble, reconnais-toi-même? Dis à ton voisin, reconnais-toi-même. Dis à quelqu'un, reconnais-toi-même. Ok. J'aimerais qu'on fasse un exercice. On lui a présenté la veste. On lui a présenté le sang sur la veste. Et on lui a posé une question, reconnais-toi-même. Ok. Qu'est-ce que lui, il a dit? Il a dit, c'est le vêtement... Ensuite, il a dit, une bête féroce là. Est-ce que c'était vrai? Est-ce que c'était vrai? Vous vous imaginez que Jacob a pleuré pendant 20 ans sur une fausse information. Le garçon qui t'a dit que j'étais laide, ça c'est l'information qu'il avait. Ce n'est pas l'information de Dieu sur toi. L'homme qui t'a quitté parce que tu ne pouvais pas mettre des enfants au monde, ça c'était de la fausse information. Par la Bible dit qu'ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Un point, c'est tout. Et toute la vie de Jacob, sa culpabilité a été bâtie. Et son deuil a été bâti sur une fausse information. Ma question ce matin pour toi, mon bien-aimé, c'est sur quoi est bâtie ta vie? Voyez-vous, la plupart d'entre nous, notre vie est souvent bâtie sur une mauvaise interprétation des événements qui nous sont arrivés. Jacob a arrêté de vivre ce jour-là. Son cœur était mort. Au point où quand il va rencontrer Pharaon, Pharaon va lui demander, mais quel âge tu as? Jacob va dire, regarde mon âge, mes années ont été difficiles. Et quand même Jacob a vu Joseph, son cœur était froid. Il ne croyait même pas que Joseph était encore vivant parce que sa vie était bâtie sur une fausse information. L'échec que tu as vécu est une fausse information sur toi. Oui. Le divorce que tu as vécu est une fausse information. Car toute fausse information peut se corriger. La maladie que tu vis est une fausse information sur ton état de santé. Les difficultés que tu traverses sont une fausse information sur ton état. Car quand l'information peut se corriger, c'est une réalité. Or, quand la réalité qui est temporaire croise la vérité de Dieu qui est éternelle, la réalité doit fondre comme le beurre au soleil. Et puisque, laissez-moi prêcher de la part de Dieu. Et puisque la vérité existait avant la réalité, c'est que la vérité a un droit de naissance sur la réalité. Et quand le principe de droit d'aîné s'applique, ça veut dire que quand la vérité arrive, la réalité doit se lever et sortir. Laisse-moi te dire que ta situation est une réalité. Elle a besoin de rencontrer l'information qui vient directement du trône de Dieu. Elle a besoin de rencontrer l'information qui a quitté le trône de Dieu, l'information qui a traversé la galaxie, l'information qui a traversé l'univers, l'information qui a traversé l'univers visible, l'univers invisible et te croiser. La vérité a un droit de naître sur la réalité. Et quand la vérité croise la réalité doit dégager. La réalité est comme une phrase que le diable a écrite dans ta vie. Il a mis un point et la vérité vient mettre une virgule en dessous. Et en grammaire, on dit que lorsqu'on met une virgule en dessous, la phrase continue. Je ne sais pas quel point on a mis sur ta vie. Je ne sais pas quelle maladie t'a condamné. Je ne sais pas comment on t'a condamné. Mais je suis venu te dire ce matin de la part de Dieu que tu es non coupable. Je suis venu te dire de la part de Dieu que tu es non coupable. Je suis venu te dire de la part de Dieu que tu es non coupable. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Non coupable. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Non coupable. Est-ce qu'on peut le dire encore? Non coupable. 20 années de sa vie. Dis à quelqu'un 20 années. Dis à quelqu'un 20 années. 20 années perdues à cause d'une fausse information. Combien d'années de ta vie tu as perdu? C'est vrai que ton mari t'a quitté, mais Dieu n'a pas dit que c'est la fin de ta vie. C'est vrai que tu t'es lancé en affaires et tu as échoué la première fois, mais Dieu n'a pas dit que c'est la fin de ta vie. C'est vrai que tu as acheté une maison et que la maison a été reprise par la banque, mais Dieu n'a pas dit que c'est la fin de ta vie. Ce que tu vis est une réalité. Cette réalité a besoin de croiser la vérité de la parole de Dieu, la vérité de la parole de Dieu qui libère, la vérité de la parole de Dieu qui sanctifie. Et Jacob est assis et son fils est parti et il est en train de pleurer. Il pleure sur une fausse information. Ouais. Sur quoi tu pleures ce matin? Sur quoi tu pleures? Sur quoi vous pleurez en tant qu'église? Sur quoi tu pleures? Une vie, le fondement de sa parole, de sa vie pendant 20 ans, n'était plus la promesse de Dieu à Abraham, mais une fausse interprétation de la réalité qui lui a été présentée. Une fausse interprétation. On lui a présenté la veste. On lui a présenté le sang. Il a fait 1 plus 1 égale 2. Il a tiré une conclusion fausse, basé sur des éléments qui normalement ne pouvaient pas se mettre ensemble. Et j'aimerais parler à des jeunes filles ce matin qui ont perdu leur virginité et qui pensent que la vie est terminée pour toi. J'aimerais te dire que tu es non coupable. J'aimerais parler à ces jeunes gens qui luttent avec l'homosexualité. Tu es dans l'église, tu chantes ici devant, mais tu luttes dans ton cœur avec l'homosexualité. C'est une fausse information. Tu as besoin de croiser le roi des rois qui est mort à la croix du calvaire. J'aimerais parler à ces jeunes gens qui luttent avec l'homosexualité. L'homosexualité, ce n'est pas simplement dans la communauté blanche, mais aussi dans la communauté haïtienne. J'aimerais parler à ces jeunes qui se sentent le besoin d'aller cluber pour se sentir eux-mêmes. J'aimerais te dire que tu bases ta vie sur une fausse information. Mais Dieu veut te rencontrer là où tu es. Parce qu'il y a 2000 ans, il t'avait déclaré non coupable. Mais vous savez, on peut déclarer un prisonnier non coupable, mais tant que le prisonnier ne sort pas de la prison. On peut déclarer le prisonnier non coupable, mais le prisonnier doit sortir de la prison. Et ce matin, j'aimerais te prononcer les paroles que Christ a dit, qu'il est venu, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car qu'il m'a oint. Et une des paroles qu'il dit, c'est pour proclamer aux captifs la délivrance. Et cette délivrance a déjà été prononcée sur ta vie. Tout ce que tu as besoin, c'est de marcher dedans. J'aimerais parler ce matin à ces femmes qui se sentent femmes à moitié parce qu'elles sont des mères monoparentales. J'aimerais parler à ces hommes qui en Haïti étaient des médecins, ces hommes qui étaient des avocats et qui aujourd'hui doivent faire le taxi et ne se sentent que hommes à moitié. J'aimerais te dire que tu es non coupable. J'aimerais te dire que ton histoire va continuer après ce matin. J'aimerais te dire que ce matin, Dieu va te visiter. Et Jacob, voyez-vous, sa vie est basée sur une fausse information. Lorsqu'un jeune homme veut séduire une jeune femme, une des techniques qu'il emploie, c'est la fausse information. Ce n'est pas si belle que ça. Il crée le doute. Il crée le doute. Ah, elle n'est pas si belle que ça. Et la jeune femme, avec le doute qu'on a injecté en elle, elle baisse la garde. Oh, excusez-moi les jeunes gens. Est-ce que vous me saisissez? Et Jacob va baser sa vie pendant 20 ans sur une mauvaise information. L'information sur ma vie est que je ne suis pas pauvre. Si je suis pauvre, je manque temporairement d'argent. Mais mon argent est dans le compte du roi des rois. Tout ce que j'ai besoin, c'est de trouver le nip de Dieu. Ah, yes, yes. Come on, come on, come on, come on. Ma guérison, non, je suis malade. Et les hommes m'ont déclaré malade. Mais tout ce que j'ai besoin, c'est de trouver la combinaison de la pharmacie de Dieu. Pour trouver le médicament qui va me guérir. Pour trouver le médicament qui va me libérer. Et Jacob vit avec la culpabilité. Bien aimé, j'aimerais parler rapidement ce matin. Il y a 5 formes de culpabilité. Vous savez, il y a la culpabilité de quelque chose que vous avez fait. J'aimerais vous parler de la libération de la culpabilité à 100%. Il y a la culpabilité de ce que vous avez fait. Vous savez, beaucoup de gens sont coupables et beaucoup de jeunes jeunes filles sont coupables pour des choses qu'ils font hors de l'église. Et ce matin, mon but, ce n'est pas de culpabiliser les jeunes, mais de parler de certaines choses. Que c'est vrai que, oui, tes amis t'ont emmené dans une direction et tu as fait des choses que si ta maman saurait, ça serait avion, direction, Port-au-Prince, aller simple. OK. Et tu vis au-dedans de toi avec cette culpabilité. La culpabilité de ce que tu as fait en cachette et que personne ne connaît. Et cette culpabilité vient quand tu pries. Quand tu chantes, tu te sens sale. Tu n'es plus capable de te regarder au miroir. Mais la Bible déclare que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Et le pardon de Christ, ce n'est pas seulement un pardon qui enlève le péché, mais c'est un pardon qui nettoie aussi la conscience. Au point où l'apôtre Paul peut déclarer que Dieu que je sers dans une conscience pure. La deuxième forme de culpabilité, c'est la culpabilité de ce que vous auriez dû faire et que vous n'avez pas fait. Ça, c'est une culpabilité qu'on va beaucoup retrouver au niveau des adultes. Vous savez, quand tu arrives à l'âge de 40 ans, et puis on te fête « Happy birthday to you », et puis en dehors, tu es en train de chanter, mais en dedans, tu es en train de pleurer. Parce que tu te souviens que si peut-être que tu avais repris ton cours de mathématiques, aujourd'hui tu ne serais pas en train de faire le travail que tu fais. Tu te souviens peut-être que si tu n'avais pas commis certaines actions, aujourd'hui tu ne serais pas là. La culpabilité parfois de ne pas être intervenu pour quelqu'un qui avait besoin de votre aide. Vous avez connu une histoire sur quelqu'un et si vous aviez dit un mot, la vie de la personne serait totalement différente. Mais tu t'es tu comme Ruben. C'est tu. Le problème de l'Église aujourd'hui, c'est le problème du silence. Quand je sais ce qu'ils sont en train de faire à deux et je me tais. Ah oui, c'est ça, c'est ça, c'est exactement ça. Et oui, oui, c'est ça. Et quand je me dis que oui, je ne veux pas de problème, mais qu'en réalité, ça devient un problème pour moi parce que je sais ce que je sais, personne ne le sait, mais je sais. Entre moi et Dieu, on le sait. Et en dedans de moi, je ne suis plus en paix parce que je ne peux plus dormir la nuit. Je sais ce que je sais. Oui, c'est ça, la culpabilité pour ce que vous auriez pu faire. La culpabilité pour cet enfant que vous auriez pu garder et protéger, que tu as juste dépassé dans la rue et sa vie a été basculée. Vous savez, il y a quelqu'un qui m'a dit dernièrement, tu sais, pasteur, je te remercie beaucoup parce que tu m'as beaucoup aidé. Il me dit, pourquoi? Et je pose la question, la première, pourquoi? Elle me dit, parce qu'à chaque fois que tu m'appelles, tu me demandes où tu es, qu'est-ce que tu fais? Et la jeune femme me disait, tu sais, quand tu m'appelais, ça m'énervait. Mais un jour, elle va ouvrir son cœur, va me dire, c'est parce que je fréquentais un garçon et à chaque fois que je voulais faire quelque chose avec, tu appelais. Où tu es? Qu'est-ce que tu fais? Et elle me dit que juste ta voix au téléphone, aujourd'hui je ne suis plus avec la personne. Ah oui, la culpabilité. La culpabilité était le problème de Jacob, un père coupable. La culpabilité était le problème des frères de Jacob. Voyez-vous, une famille de coupables, le père coupable, la mère coupable, et Jacob pense que tous les malheurs qui lui arrivent, est-ce que je parle au point numéro 3? La troisième forme de culpabilité, c'est ça. La culpabilité pour quelque chose que vous pensez que vous avez fait, mais on vous a présenté des fausses informations. Et Jacob vit avec cette culpabilité, pensant que tous les malheurs qui lui arrivent, c'est parce qu'il a volé la bénédiction de son frère. Combien d'entre nous interprétons notre vie? Oh, mais si ça m'arrive, c'est parce que j'avais fait telle chose. Et on oublie que Christ nous a déclarés non coupables. On oublie que la malédiction sans cause n'a pas d'effet. On oublie que Colossiens déclare qu'il a dépouillé les dominations, les autorités, les principautés. Il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'eux à la croix. On oublie que Christ est devenu malédiction pour nous à la croix. La culpabilité pour quelque chose qu'on pense. Jacob pensait que le malheur qui lui arrive était le résultat de ce qu'il avait fait à son frère. J'aimerais te dire ce matin que le diable est un menteur. La culpabilité pour quelque chose que vous pensez que vous avez fait. Et ce n'est pas vous qui l'avez fait, c'est quelqu'un qui l'a fait. On a mis ça sur votre dos. On vous a collé une réputation que ce n'est pas votre réputation. On vous a collé une réputation et j'aimerais te dire ce matin que l'œuvre de Christ à la croix est parfaite. La culpabilité, la quatrième forme de culpabilité, c'est la culpabilité pour quelque chose que, vous savez, le sentiment que vous avez, que vous pensez que vous n'avez pas fait assez. C'est cet enfant que vous avez, puis tu t'assises comme mère et tu te dis, mais si j'avais été un peu plus sévère. Beaucoup des mères vivent avec la culpabilité. Et nous, les hommes, nous avons l'art de culpabiliser les femmes. Vous savez, quand l'enfant a bêtisé à l'école, on dit, va voir pour ton enfant. Mais on oublie que l'enfant n'est pas venu au monde tout seul. Est-ce que vous me saisissez ce matin? La culpabilité pour un enfant qui aujourd'hui est devenu délinquant, et toi en tant que parent, tu te sens coupable. J'aimerais te dire que tu es non coupable. Il y a une expression haïtienne qui dit que, je crois que ça se dit mal appris. C'est ça, hein? Ça veut dire que vous avez tout fait pour bien lui apprendre, mais il a... On met l'enfant au monde, mais on ne met pas son cœur au monde. Jacob n'avait pas mis le cœur de ses enfants au monde. C'était des enfants nés méchants. Il y a des frères qui sont juste méchants. Ils sont juste méchants. Tu as beau faire tout ce que tu veux, te culpabiliser, tu donnes encore plus d'argent, tu envoies encore plus d'argent, tu fais plus. Mais au fond, leur cœur est méchant. J'aimerais te dire que Dieu peut te guérir de cette culpabilité, du sentiment que tu n'as pas fait assez. J'aimerais parler de la dernière forme de culpabilité et j'aimerais terminer par là ce matin. Non. La dernière forme de culpabilité, c'est la culpabilité parce que vous excellez. La culpabilité parce que vous excellez. Vous allez comprendre ça bientôt. Cette forme de culpabilité vient de l'environnement où vous êtes. Chaque fois que tu fais quelque chose d'excellent, amen, tu sais écrire, tu sais parler, ça vient souvent sous la forme de pour qui tu te prends. C'est ce qu'on appelle, j'en parlais ici il y a 2 ans, c'est ce qu'on appelle l'esprit de crabe. Vous connaissez l'esprit de crabe? Non? Les crabes, c'est les seuls animaux que lorsque tu mets dans un bassin, tu ne fermes pas le bassin. Tu le laisses ouvert. Vous savez pourquoi? À chaque fois qu'un crabe essaie de sortir, les autres le ramènent. À chaque fois que quelqu'un dans la famille essaie de s'en sortir, on va trouver le moyen de te casser et tu te sens coupable parce que tu es différent. Mais j'aimerais vous rappeler le titre de votre dernière conférence, « I know who I am ». Nous sommes nés du même ventre, mais ça ne veut pas dire nous sommes les oiseaux du même plumage. Il faut que les aigles volent avec les aigles, les canards avec les canards, les oies avec les oies. Le fait que nous venons d'une même famille ne veut pas dire que nous avons la même destinée. Mon bien-aimé, si tu performes dans la médiocrité, moi je performe dans l'excellence. Dieu a une destinée pour moi. Et voyez-vous, beaucoup d'entre nous, et on le voit tellement à l'école. Ma femme me racontait qu'à l'école, elle était très intelligente. Elle est toujours très intelligente. Mais à chaque fois qu'elle avait un 90, elle allait chez ses amis, puis ses amis lui demandaient « Combien tu as eu ?» Elle dit « Ah, 60. » Et comme les amis avaient 60, tout le monde se réjouissait dans la médiocrité. « Ah, tu es comme nous. Enfin, on peut être ensemble. Ouais. Enfin, on peut se tenir ensemble. » Mais laisse-moi te dire de la part de Dieu que quand tu sens cette forme de culpabilité, c'est l'ennemi numéro 1 des promesses de Dieu dans ta vie. C'est l'ennemi numéro 1 du potentiel de Dieu dans ta vie. Oui. Et vous savez ce qui est dangereux avec cette forme de culpabilité? C'est qu'elle vient des personnes à qui vous faites confiance. Elle vient des personnes avec qui vous mangez tous les jours, mais juste par des petits gestes. Tu es assise là et tu sais designer, tu veux ouvrir une ligne de design de vêtements. L'esprit de crabe. Est-ce que tu penses même que ça va marcher? Tu as été à l'école avec eux, tu es devenu dentiste. Ton nom c'est Yves. Il arrive à la clinique des dentistes. Il ne peut pas t'appeler monsieur, non. Si Yves, ça passe Yves. Non! Ici, je suis à mon entreprise, respecte mon potentiel, respecte ma vision, respecte qui je suis. Et puis, n'arrive pas à mon bureau sans prendre rendez-vous. Prends rendez-vous, s'il te plaît. Et quand tu appelles, dis, j'appelle pour parler à monsieur. Parce qu'il y a des atmosphères où nous sommes frères et sœurs, mais il y a des atmosphères où je suis monsieur. Et quand tu rentres, s'il te plaît, ne m'appelle pas petit ici, je suis plus grand que toi. J'aimerais terminer ce matin. J'aimerais appeler 2 jeunes gens rapidement. 2 jeunes gens rapidement. Come on. 2 jeunes gens rapidement. Oui, viens. Non, non, du jeune homme là-bas en arrière. Viens. J'aimerais vous laisser avec ça, pas le billet. Alléluia. Rapidement, et on acclame. Non, je suis non coupable. J'ai vécu longtemps. À chaque fois que j'ai des rêves, quelqu'un autour de moi, il est orgueilleux. Non, je ne suis pas orgueilleux, je suis différent de toi. Tu as été prédestiné à voler à une altitude de 5 mètres. Moi, je suis un Boeing 747. Ouais. Je touche des atmosphères dont tu ne peux même pas encore rêver. Je touche des dimensions que tu ne peux... Attends, ça vient. Laissez-moi vous dire, quand David a tué Goliath, c'était un miracle pour qui? Pour Saül ou pour David? Pour Saül, pour David, c'était naturel. Bien-aimé, il y a des choses que vous faites, c'est des miracles pour des gens. Mais pour toi, c'est normal. Il y a des choses que tu fais, pour des gens c'est un miracle, mais pour toi c'est ce que tu manges au petit déjeuner. Ouais, c'est là où leur vie, finit là, c'est là où ta vie commence. Certains sont des Cessna, ils ne peuvent pas voler très haut. Certains sont des Boeing 747 et d'autres sont des fusées, ils sont destinés pour les étoiles. Et doit faire face à différentes formes d'adversité alors qu'ils sont en train de monter. Quand je monte au premier niveau d'adversité, je suis non coupable. Quand je monte au deuxième niveau d'adversité, je suis non coupable. Je perce l'adversité. Alléluia. Je termine. Je ne sais pas si je vous ai déjà fait ça. Combien j'ai en main ici? Et vous ne connaissez pas ça ici? C'est combien? Ok, nous allons prendre le 100 dollars ici, et le 100 dollars ici c'est vous, et nous allons le plonger dans l'adversité et dans la culpabilité. Saute dessus. Come on, sautez dessus. Donnez-moi le billet. Il vaut combien ? Avez-vous remarqué que vous n'avez pas interprété le 100 dollars en fonction de ce qu'il a subi, mais en fonction de sa valeur originale? Okay. Ce qui fait la valeur du 100 dollars. Parce qu'en réalité, qu'est-ce que j'ai ici en main? Non, je n'ai pas 100 dollars, j'ai du papier. Pourquoi le papier devient-il 100 dollars? Parce que, en réalité, on a imprimé une image. Et la valeur est reliée à l'image. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Et Dieu ne l'a pas créé homosexuel, mais Dieu l'a créé à son image et à sa ressemblance. Maintenant, l'image peut être affectée par le viol. L'image peut être affectée par l'homosexualité. L'image peut être affectée par beaucoup d'autres choses, mais la valeur originale. J'aimerais t'appeler à aller dans ta valeur originale qui a été prédéterminée par Dieu. Et toute culpabilité, nous la secouons dans le sang précieux de Christ. J'aimerais peut-être aller plus loin ce soir en terminant. Ok, à qui appartient ce billet? Pardon? Pardon? Non, il ne m'appartient pas. Le billet, c'est écrit dessus, c'est propriété de la banque. Même si tu l'as en main. Merci, vous pouvez aller. Même si. Come on! Come on! Même si tu as le billet en main, non, ce qui t'appartient, c'est l'idée que le billet... Sais-tu que si tu brilles ce billet, tu vas en prison? Voilà pourquoi la Bible dit que vous êtes comme la prunelle de mon œil. Celui qui vous touche, touche Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous ne vous appartenez plus à vous-même. Voilà pourquoi, lorsque le diable essaie de mettre le verdict de la culpabilité, il peut même déchirer le billet. Si on prend ce billet, on le retourne à la banque. La banque va réparer le billet et le remettre en circulation. Le fait que tu as subi le rejet, le fait que tu as été écrasé depuis que tu es petit, le fait que tu as été abandonné comme Joseph, ça ne veut pas dire que c'est ça ta vie. Ce qui compte, c'est ta valeur originale. J'aimerais vous rajouter une dernière chose. La valeur de ce billet ici, ce n'est pas toi qui le détermine, mais le billet a été prédestiné. C'est qu'un billet de 5 dollars fait C'est qu'un billet de 100 dollars fait, un billet de 5 dollars ne peut pas le faire. Nous avons tous été prédestinés, mais nous n'avons pas tous le même impact. C'est votre valeur qui compte. Si je prends le billet, il vaut combien? Je le mets dans ma poche. Il vaut combien? Si je m'assieds sur la chaise, il vaut combien? Ok, si je m'en vais en Haïti, il vaut combien? Acclamons le Seigneur. Je vous invite à vous lever un moment. Les musiciens, j'ai besoin d'une musique. J'aimerais qu'on reste concentré sur ce que Dieu fait. Il y a quelqu'un que sa vie est en train de changer là, pendant qu'on se parle. Tous les billets de la Banque du Canada sont imprimés où? Sont imprimés par qui? Par la Banque du Canada. N'est-ce pas? Ne vous sentez pas une créature inférieure par rapport aux autres races, parce que nous avons tous été fabriqués au même endroit, avec la même touche. Non coupable de ma couleur de peau. Yes, yes, yes. Non coupable de ma couleur de peau. Jacob a basé sa vie sur une mauvaise interprétation. Quand tu regardes ta couleur de peau, tu dis, ah, si j'étais même de couleur verte, je pourrais peut-être percer ici. Mais sais-tu qu'avec ta couleur de peau, Dieu peut faire des grandes choses? Sais-tu que le fait que tu es une femme, Dieu peut faire des grandes choses avec toi? Savez-vous que Dieu peut faire des grandes choses avec vous? Cet après-midi, j'aimerais vous dire de la part de Dieu que je suis non coupable. Je suis non coupable d'être qui je suis. Être non coupable, c'est accepter qui on est, accepter sa diversité et sa particularité. Est-ce qu'on peut juste lever les mains? Alléluia. Je vais prier avec vous. Éternel Dieu des armées, Dieu fidèle, je brise dans ces lieux tout sentiment de culpabilité. Je brise dans ces lieux la culpabilité, Seigneur, sur mon frère, ma sœur, la culpabilité sur les choses qu'ils ont faites. Et l'ennemi revient tout le temps pour leur dire qu'ils sont coupables. Au nom de Jésus, je prends autorité sur toute forme de dialogue intérieur qui ne vient pas de toi. Au nom puissant de Jésus, que cela soit brisé. Au nom de Jésus de Nazareth. Éternel Dieu des armées, je prends autorité sur toute forme de culpabilité de ce qui aurait dû être fait mais qui n'a pas été fait. Oh Dieu, enlève la culpabilité. Enlève toute forme de culpabilité. Seigneur, nous prions pour tous ceux qui sont ici, qui ont des talents, qui ont du potentiel, et Seigneur, qui cherchent à percer, mais qu'il y a des gens autour d'eux qui les retiennent, comme Joseph, dont le potentiel était étouffé par l'atmosphère familiale. Nous prions qu'ils puissent percer dans le nom de Jésus. Nous prions qu'ils puissent percer dans le nom de Jésus. Nous prions qu'ils puissent percer dans le nom de Jésus. Que ta grâce, que ta paix, que ta miséricorde, que ton amour demeure sur cette assemblée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit amen. Amen. Est-ce qu'on peut crier trois fois ensemble? Je suis non coupable. Je suis non coupable. Je suis non coupable. Alors tourne-toi vers ton voisin et dis-lui, accepte-toi. Que Dieu vous bénisse.
prochain.